Bonjour à toutes et à tous.
Je vais juste prier pour remettre ce temps. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci parce que tu nous unis, Seigneur. Tu nous unis en toi, par toi et pour toi. Seigneur, nous voulons, c'est vrai, chanter ta gloire, chanter tes merveilles, Seigneur. Et nous voulons poser les regards sur cette merveille que tu nous as fait en nous donnant ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse nous instruire, nous reprendre, nous redresser, Seigneur. Parce que nous voulons être dignes de toi, dignes de ton royaume, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, nous ne pouvons le faire que par ton Esprit Saint, Seigneur. Et nous te prions ce matin que tu viennes à notre secours. Nous t'en prions en Jésus, Père. Amen. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être là ce matin et de pouvoir vivre ce temps ensemble avec vous. Pour commencer notre temps ensemble, je tiens en premier lieu à demander pardon à celles et ceux qui pourraient mal prendre ce que je vais dire maintenant. C'est un texte qui n'est pas évident, on m'a envoyé des messages pour me dire merci et prier pour moi, parce que c'est un texte qui n'est pas facile et je suis reconnaissant pour ça. Je ne compte pas blesser quelqu'un, je ne veux pas heurter nos frères et sœurs qui sont peut-être célibataires, ni ceux qui sont en couple d'ailleurs. J'ai essayé en tout cas d'approcher ce texte avec le plus de bienveillance que le Seigneur m'a donné dans sa grâce. À vous de me dire si j'ai réussi ou pas. Après ce prologue un petit peu solennel, est-ce que vous connaissez cette émission? Un peu de légèreté. Oui, qui connaît? Marié au premier regard. Alors. Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah, oula, je ne porte pas de jugement sur ce que vous regardez à la télé, moi. Oula. Ok, marié au premier regard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est des gens qui se marient sans s'être jamais vus avant. Voilà, ils arrivent devant l'hôtel, ils se rencontrent et ils doivent s'épouser. Bref, je ne sais pas si j'ai bien résumé le concept. Je ne regarde pas personnellement. Mais chercher l'amour, c'est devenu une quête importante, voire primordiale dans notre société. L'être humain a besoin d'amour, a besoin de partager son amour. Et c'est amplifié avec l'âge. Plus vous avancez en âge, moins vous êtes en couple, plus vous êtes bizarre. On met des fois un peu les célibataires de plus de un certain âge dans une case un peu marginale. Sûrement peut-être à cause des moines, tout ça. En tout cas, ça crée une formule, c'est-à-dire que si tu es célibataire et que tu es âgé, on te fréquente très peu ou alors tu es bizarre. Et l'Église n'est pas épargnée par cela. On cherche à tout prix à mettre nos célibataires en couple, à ce qu'ils soient heureux en mariage comme nous le sommes tous, évidemment, et que ça arrive surtout le plus tôt possible. Penser qu'un homme ou qu'une femme pourrait être célibataire nous semble un petit peu bizarre. Et ce matin, on pourrait dire, ben voilà, toi t'es marié, comment est-ce que tu peux nous parler du célibat, nanana. C'est pas moi qui vais en parler, c'est l'apôtre Paul. Et je vous invite à lire le texte qui sera affiché derrière moi. Si vous avez vos bibles, vous pouvez les ouvrir. Donc, dans le chapitre de la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, et on commencera à partir des versets 25 jusque verset 40. Je vais l'ouvrir moi-même dans mon iPad, ce sera plus simple. Je voulais lire là-haut, mais je n'ai pas une assez bonne vue pour ça. Et ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 25, je me lance. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais les leur épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils ne jouissaient pas. Car le monde, dans sa forme actuelle, passera. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est libre de se remarier avec qui elle veut, oui, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et donc, je vous propose qu'on regarde que marié ou célibataire, ce n'est pas notre statut qui compte, mais de vivre dans l'urgence de l'essentiel. Et donc, j'ai découpé le texte en trois parties. Donc la première partie, ce sera le libre choix du mariage ou du célibat. La deuxième, l'urgence de l'essentiel. Et la dernière, prêt pour l'essentiel. L'apôtre Paul répond ici à une question qui lui a été posée dans une lettre qui parle directement pour les personnes non mariées ou les vierges, selon les versions, que nous appelons aujourd'hui les célibataires. Ici, l'apôtre Paul, parle d'un sujet délicat, non pas dans le sens qu'il est sensible, mais délicat dans le sens que Christ n'a jamais enseigné sur le célibat durant son ministère terrestre. Et Paul est honnête, il dit vis-à-vis des Corinthiens, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais bien un conseil, un avis de sa part. Et Dieu, dans sa grâce, a fait de Paul un homme digne de confiance. Et c'est pour ça que nous pouvons nous appuyer sur ses paroles, comme venant de Dieu lui-même, que Dieu lui a inspiré pour édifier son peuple. Et il donne son avis sur le statut des célibataires. Il en va de même pour les personnes mariées. Si vous avez lu le chapitre dans son ensemble cette semaine, vous savez que l'apôtre Paul appelle à une chose, restez tel que vous êtes. Si vous êtes marié, restez comme vous êtes, ne cherchez pas à divorcer. Si vous êtes marié avec un non-croyant, ne cherchez pas à vous en séparer. Si vous êtes célibataire, ne cherchez pas à vous marier. Pourquoi ? Parce que le temps n'est pas à regarder aux frivolités, n'est pas à regarder au mariage, au célibat, est-ce que je dois changer ou pas ? À regarder plus loin, à des choses qui arrivent. On ne sait pas exactement pourquoi Paul parle de temps de détresse. Est-ce qu'il a senti que le vent allait tourner pour les chrétiens du 1er siècle et que des persécutions allaient arriver et que ça entraînerait le massacre de nombreux chrétiens ? Ou bien peut-être, et je vais plus dans ce sens-là, il pense que le retour du Seigneur va être imminent, c'est pour bientôt. Et au lieu de chercher à s'encombrer des choses terrestres, il préfère tourner son regard vers ce qui est céleste, ce qui va venir, et à se tenir prêt comme le Seigneur l'a enseigné. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure du retour de Christ, tenez-vous prêt. Je ne suis pas le seul à penser ça, évidemment, j'ai des commentateurs qui vont dans mon sens, je vous rassure. Mais donc, il commence et il encourage, il dit, mais voilà, si tu es lié à une femme, c'est pas grave, si tu n'es pas lié à une femme, c'est pas grave non plus. Paul écrit dans un but précis, il le dit, je cherche à vous éviter des souffrances. Et le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Je suis heureux en ménage, je le précise quand même. Mais être marié, et j'ai déjà entendu ça dans l'église, je ne sais pas si ce n'est pas Jean qui l'a dit une fois, c'est se rajouter des soucis qu'on n'a pas tout seul. Et c'est vrai. On se rajoute des dilemmes, des questionnements, dire mais comment je vais faire parce qu'il ne faut pas que je néglige ma femme, il ne faut pas que je néglige mes enfants, il ne faut pas que je néglige mon service pour le Seigneur. Alors que quand vous êtes tout seul, est-ce que je néglige mon service pour le Seigneur ou pas ? La question est peut-être plus facile à se poser, mais on y reviendra plus tard. À ce stade de ce texte, j'aimerais rappeler deux choses importantes. L'apôtre Paul n'est pas un vieil homme aigri, comme on pourrait le penser, qui souhaite priver les jeunes gens du bonheur du mariage, qui souhaite que les jeunes soient un peu marginalisés dans le monde. Et quand vous dites souvent aux jeunes, mais écoute, faut pas te précipiter pour le mariage, prends ton temps, attends, vous passez pour un ringard et un vieux réac, vous devenez un rabat-joie. Et c'est pas le cas de l'apôtre Paul, qui parle du mariage comme personne. Paul était sans doute marié, il avait sans doute une femme, vu dans son rang dans le parti des pharisiens, c'était réservé sûrement aux personnes mariées, mais il était sûrement veuf. Ce qui amène justement ma seconde remarque, c'est que si Paul a connu le mariage, il aime le mariage, et quand on dit à quelqu'un, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est qu'on a le mariage en haute estime. Parce que Paul, comme Christ, compare notre union à Christ comme l'union du mariage. Donc, voilà. Les Corinthiens vivent une vie dissolue. Dans le contexte, être corinthianisé, c'est vivre dans le péché. C'est vivre d'une façon que même les pires païens ne peuvent pas imaginer. Ils font n'importe quoi dans leur corps, dans leur relation homme-femme. Il y en a même un qui a épousé sa belle-mère dans l'église. Ils ont des procès entre chrétiens. C'est chaud, vraiment c'est chaud chez eux. Donc, Paul, juste avant, chapitre 6, dit « Tout m'est utile, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Et je pense que ce verset-là est une clé pour comprendre le passage du chapitre 7. On va aller plus loin dans notre texte. L'urgence de l'essentiel. Le discours que tient Paul a un but, a une visée. Christ revient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts à cela ? De notre point de vue, presque 2000 ans plus tard, on pourrait se dire que Paul s'est loupé, qu'il n'a pas senti les choses comme tel, parce que Christ n'est toujours pas revenu. Mais Paul n'est pas un espèce de Nostradamus qui essaye de prédire un jour et une heure du retour de Christ. Mais il vit de telle sorte que s'il doit rencontrer son Sauveur aujourd'hui, dans l'instant, il est prêt. Parce qu'il se préoccupe de lui dans son cœur, dans ses pensées, à n'importe quel moment. Il écrira à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui a fait ses preuves. » et qui dispense avec droiture la parole de vérité. Et c'est ce qu'il enseigne dans chacune de ses églises. Est-ce que c'est votre cas ce matin ? Est-ce que, si vous analysez votre semaine écoulée, vous avez à rougir de quelque chose ? Si vous rencontriez votre Seigneur dans l'instant, est-ce que vous vous sentiriez prêt à le faire ou pas ? Et Paul commence donc une liste de choses à faire et il dit, je voulais surligner, donc que ceux qui ont une femme fassent comme s'ils n'en avaient plus, que ceux qui pleurent fassent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui sont heureux fassent comme s'ils n'étaient pas heureux, que ceux qui ont des choses fassent comme s'ils n'en avaient pas. Donc Marie, aujourd'hui, l'application de ce texte est la suivante, négligez vos femmes, si vous pleurez, vous êtes faible, si vous êtes heureux, vous êtes laxiste, et si vous ne vendez pas tout ce que vous avez, vous êtes matérialiste. Fait plaisir. Non, j'ironise évidemment le texte. Mais Paul est dans cette optique-là. Ne laissons pas les choses nous détourner de ce que Dieu nous donne. La famille, le travail, vivre ses sentiments est une bénédiction que Dieu donne, est un bienfait que Dieu nous accorde. Mais si ça prend la place de Dieu, si ma famille prend la place de Dieu, si mon travail prend la place de Dieu, si ce que je ressens me coupe de ma relation avec Dieu, alors ça devient une idole. C'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Le point commun que Dieu nous donne, de toutes ces choses, c'est que c'est Dieu qui nous les donne. Il nous fait grâce de nous donner ça, et nous les prenons, nous nous les approprions, et nous ne les remettons pas devant lui. Et on les garde pour nous, on se l'approprie, et on vole ce qui devrait être un sujet de louange, de gloire et de reconnaissance à notre Dieu. Tout cela est donné pour Dieu, par Dieu pour notre bien, et nous en faisons une idole, j'ai déjà dit. Le monde tel que nous le connaissons va finir. Dans sa forme actuelle, il va passer, verset 31. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie ? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie ? Quel serait le bilan de ma vie si ma vie s'arrêtait ici-bas ? Est-ce que j'étais à la recherche d'un bonheur que je pouvais trouver en Dieu, mais que je ne voulais pas trouver en Dieu? Est-ce que j'ai cherché mon confort, ma sécurité dans les choses matérielles, alors que je l'ai en Dieu? Ou bien est-ce que je choisis de vivre pour Christ, même si vivre pour Christ, ça veut dire que par moments je vais tomber, je vais chuter, je vais peut-être me détourner de lui sur certains points. Mais je vais revenir à la croix, je vais revenir au pied de cette croix, demander pardon et me relancer. Est-ce que je veux plus de sainteté pour ma vie? Est-ce que je veux que mon caractère soit changé par Christ? Et bien souvent, on est tellement en proie à lutter avec ce que nos cœurs veulent, avec ce que nous désirons, et des choses qui ne sont souvent pas bonnes, que ça nous donne un nombre d'inquiétudes infinies et incroyables, que nous ne remettons pas à Dieu, mais que nous prenons sur nous, et qui nous freinent dans notre sainteté, qui nous font trébucher dans notre marche chrétienne. Comment faire? Comment avancer? Comment grandir plus en sainteté? Et ça tient en deux mots: l'Église et les célibataires. Pour être prêt pour l'essentiel. Paul nous donne un raisonnement plein de sagesse sur le mariage et sur le célibat. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur et des moyens de lui plaire. Ça pèse une chape de plomb sur les épaules des célibataires. Vous n'avez que ça à faire. Dans l'absolu, évidemment. C'est vrai, vous avez le temps, vous n'avez pas à vous préoccuper de qu'est-ce que ma femme va penser si je vais dans cette réunion, qu'est-ce que mes enfants vont penser de moi s'ils me voient qu'un soir par semaine. On a tous ces dilemmes-là en tant que, personnes mariées qui veulent s'engager pleinement dans l'Église. Obligé de s'inquiéter, sa femme, ses enfants. Mais le cœur du message de ce matin, c'est que bien souvent, involontairement, je dirais, on marginalise nos célibataires en essayant de les caser, de les mettre en couple, de dire « mais il serait mieux avec quelqu'un quand même que tout seul ». Et je pense qu'il y a deux raisons à cela. Mais peut-être parce que si nos célibataires vivaient la façon que Paul dit, ça nous dérangerait. De les voir zélés, impliqués dans l'œuvre, vraiment qui cherchent à plaire constamment au Seigneur, ça nous dérangerait, je pense en tout cas, c'est une hypothèse de ma part. La norme nous semble le mariage. Dieu a créé le mariage, Dieu a uni Adam et Ève, a permis le mariage pour l'homme et la femme. C'est vrai, c'est une bonne chose, je tiens à le redire. C'est vrai, le mariage est vraiment une grâce que Dieu donne. Pourtant, le célibat est une grâce que Dieu donne. Jésus lui-même s'est jamais marié. Et je m'adresse aux célibataires ce matin et je vous donne une requête. Faites-moi culpabiliser de ne pas m'engager assez pour le Seigneur. Faites-moi vraiment envie du zèle, de l'engagement plein et entier pour le Seigneur. De vous voir grandir, de vous voir vous développer en Christ, de vous voir prendre pleinement possession de ce que Paul dit là. J'ai envie de culpabiliser de ça. Et les mariés, souvent on se trouve des fausses excuses, je rebondis un peu sur ce que Bernard a dit la semaine dernière. Des fois on se dit la famille, faut que je préserve ma famille, nanana. C'est vrai, je suis le premier à le dire. Mais des fois on se cache aussi derrière ça pour ne pas s'engager plus dans l'Église. Et les célibataires, c'est le moteur de ça. C'est le moteur de l'Église dans le sens qu'ils ont pleinement cette liberté et ce privilège de pouvoir s'engager pleinement pour le Seigneur sans regarder à autre chose. Et c'est eux qui doivent nous challenger. C'est eux qui doivent nous faire envie. Ils ne sont pas à tergiverser et dire « Oui, mais est-ce que vous avez la possibilité de servir à fond le Seigneur ?» Vous n'avez pas à chercher cet équilibre entre la vie spirituelle, la vie de famille. Donnez-nous soif de vivre plus avec le Seigneur, afin que l'Église soit perpétuellement en mouvement. C'est un des rouages que le Seigneur utilise pour que l'Église avance. Je dis cela pour votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. C'est pas moi qui le demande, c'est Paul qui le demande. Le célibat n'est pas un fardeau, dans le sens que je comprends très bien que ce soit dur de voir des hommes, des femmes mariés, de pas vivre ce côté-là, d'être en couple, de vivre un amour réciproque. Je l'entends, je le conçois, et je comprends que ça puisse peser. Mais ce n'est pas ça qui doit vous freiner dans votre marche avec le Seigneur. Bien souvent, on se dit « oui, je vais attendre d'être marié pour m'engager, je vais attendre d'être en couple », alors qu'il faut le faire dès que le Seigneur nous en donne l'occasion. C'est vrai pour les célibataires comme pour les mariés, je le rappelle aussi. Et Paul parle au début du chapitre 7, verset 7, que le célibat, comme le mariage, est un don. Je vais aborder très très rapidement ce sujet, je n'ai pas le temps de m'étaler trop là-dessus. Quand on parle de don, la première chose à se poser la question, est-ce que c'est un don ponctuel ou est-ce que c'est un don pas ponctuel? J'ai pas le mot, je le retrouve pas. Permanent, merci. Je l'avais marqué, mais je le retrouvais plus dans mes notes. Ponctuel, ça veut pas dire pour un temps très court. Ça veut pas dire je vais être don de célibat pour 2 semaines. Le don pour célibat, ça peut durer. Le don pour le mariage, il peut finir. Ça, on va y revenir aussi. On va y aborder ça maintenant. Allez, je laisse mes notes de côté, tant pis. Si Dieu vous fait grâce de mourir avec votre conjoint, c'est une grâce. Voilà, il n'y a pas plus de définition. Vous aurez le privilège de mourir ensemble. Mais ça se passe très rarement comme ça. À un moment donné, il y en a un des deux. Je parle à la moitié de l'église, parce qu'il y a une moitié qui sera morte, l'autre moitié sera célibataire. Je dis ça un peu à la rigolade, c'est un fait. À un moment donné, notre don du mariage va peut-être finir parce qu'on n'aura plus de conjoint. Et donc on se retrouvera à cette case célibataire. Et qu'est-ce que je fais de ce nouveau célibat? Hop, hop, l'apôtre Paul. Quand une femme ou un homme perd son conjoint, il peut se remarier, il en parle. Je vous invite à relire tout le chapitre 7, et même dans 1 Timothée, il en parle aussi. La veuve peut se remarier. Si elle le fait, c'est dans le Seigneur. Ça aussi, je n'ai pas le temps d'étaler trop là-dessus. Mais il dit, elle est plus heureuse si elle reste célibataire. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. C'est des choses difficile à entendre, c'est des choses difficiles à concevoir. Et Paul dit aussi, voilà, si vraiment le célibat vous pèse trop, vous pouvez vous remarier, vous pouvez vous... Mais à ce moment-là, il y a une possibilité de pouvoir reprendre l'engagement plein et entier, sans tension dans notre vie, du mariage. Paul ne condamne pas les gens qui se marient, il ne condamne pas les gens qui se remarient. Je veux vraiment être clair aussi là-dessus, ce n'est pas péché, il le dit, je pense que quand j'ai lu le texte, il le dit au moins 5-6 fois, ce n'est pas un péché. Mais c'est se charger d'un fardeau, difficile à porter. Les célibataires donc ont un privilège de servir à 100% pour le Seigneur. En tant que couple, nous avons aussi ce même privilège, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions. Et ça, j'aimerais vraiment le préciser aussi. Le mariage n'est pas un frein pour l'engagement. L'avoir des enfants n'est pas un frein pour l'engagement devant le Seigneur. Et on a besoin de trouver cet équilibre, mais de se mettre à fond aussi là-dedans. Parce que peut-être que le Seigneur revient demain. Peut-être que le Seigneur revient la semaine prochaine. Mais est-ce que je vis ma vie dans cette optique-là ? Est-ce que mon couple a pour but de servir le Seigneur pleinement? Ou est-ce qu'il me sert de prétexte justement à freiner mon engagement? Est-ce que mon célibat me sert de frein pour mon engagement? Dire Seigneur, tu te rends compte, je suis tout seul, moi je veux quelqu'un, je te servirai quand j'aurai trouvé quelqu'un. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il y a une priorité. Être prêt pour le retour de Christ. Que faire avec tout ce qu'on vient de dire ? Comment pouvons-nous venir en aide à nos célibataires ? En ne jouant pas les marieurs, mais en les encourageant à vivre leur célibat à fond, à comprendre leur souffrance aussi. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus, en tout cas. C'est pas facile d'être célibataire dans un monde qui prône le mariage, la relation de couple. C'est clairement pas évident. Mais encourageons-les à vivre pleinement. Célibataire, comment vivre pleinement votre célibat pour Dieu ? Comment s'attacher au Seigneur sans tiraillement dans l'étape de vie dans laquelle je suis, en couple, pas en couple, marié, veuf ? Si je devais mourir demain, quel serait le bilan de ma vie ? J'aimerais reprendre ces paroles de l'apôtre Paul. Ce n'est pas des contraintes que je veux donner, et c'est vraiment une exhortation. Je pense qu'on peut tous donner plus. Donner plus, ça ne veut pas peut-être dire faire davantage d'activités, mais c'est peut-être dans l'activité dans laquelle je suis, la faire plus sérieusement, plus zélée pour le Seigneur, la remettre plus dans les mains de Dieu, prier davantage pour ça. Et ça veut peut-être dire aussi prendre d'autres responsabilités dans l'Église. Prions que le Seigneur nous encourage. Aujourd'hui est un jour où nous pouvons être transformés par le Seigneur, un jour où nous pouvons être remplis de sa grâce et où nous pouvons aller de l'avant avec lui, en lui, pour lui. Ne cherchons pas à enfermer des gens dans des cases de célibataires, de mariés, mais laissons le Saint-Esprit nous transformer. Laissons le Saint-Esprit nous faire repartir peut-être de zéro. Souvent, voilà, dans l'Église, on stigmatise les gens, mais des fois, on leur impose un carcan que, ben voilà, j'ai la vision de cette personne, il est comme ça, il ne changera jamais, il n'avance pas. Le Seigneur veut te faire avancer, il peut nous faire avancer. Et il peut nous aider à avancer l'autre si ma vision change. Tenons-nous prêts pour le retour du Seigneur et que nos vies soient conformes à lui. Je vous invite à prendre un petit temps, réfléchir, méditer à ce qu'on vient de dire, et puis je terminerai par la prière. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci parce que tu nous donnes des célibataires dans l'Église, Seigneur, et tu les veux pour toi pleinement, pour qu'ils nous donnent envie, mais aussi tu nous les donnes pour que nous en prenions soin, pour que nous les accompagnions, pour que nous les portions dans la prière et aussi dans les moyens concrets, notre Dieu. Seigneur, donne-nous un esprit d'unité, peu importe notre statut, peu importe ce que nous vivons. Seigneur, c'est toi l'essentiel. Et il y a urgence, Seigneur. Nous te prions que vraiment tu nous aides à vivre pleinement pour toi, Seigneur. Peu importe où nous en sommes, peu importe qui nous sommes, Seigneur, tu nous veux pleins et entiers pour toi, Seigneur, parce que tu le mérites. Tu n'attends rien de nous, Seigneur, mais tu mérites tellement nos cœurs, nos pensées pour toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu n'as pas besoin de cela et pourtant, nous te l'apportons parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus, Seigneur. Tu as offert la vie de Jésus-Christ, Seigneur, pour nous, par amour, et nous voulons nous soumettre pleinement à toi. Alors, Seigneur, que vraiment tu sois honoré, que tu sois, ouais, que tu sois béni tout au long de cette semaine, que ce texte nous aide à grandir et à vivre davantage pour toi, Seigneur. Nous te prions par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen.